Et ce matin, le défi, c'est le découragement. Quelle est votre stratégie face au découragement? Peut-être que c'est d'aller boire un thé avec une copine. Peut-être que c'est de vous passer en boucle ou tout d'un coup les épisodes de votre série préférée sur Netflix. Peut-être que c'est d'aller vous défouler physiquement. Probablement que pour nous chrétiens, il n'y aura pas que l'aspect de notre santé psychologique ou de notre santé physique. Une autre question se pose, comment laisser Dieu nous encourager? Comment prendre peut-être un temps à part avec lui, partir dans la nature, chanter nos cantiques préférés, demander un entretien avec votre pasteur en espérant que lui-même ne soit pas découragé, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'il vous plombe le peu de courage qu'il vous reste. D'ailleurs, j'ai remarqué que même chez les pasteurs, la manière de réagir face au découragement n'est pas toujours la même. Quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai fréquenté un groupe de pasteurs, ce sont d'ailleurs toujours mes collègues, où la manière de faire face au découragement était de se concentrer sur l'avancement du royaume de Dieu, la fidélité à la parole, la foi qui est à l'œuvre, même si moi, je ne la vois pas forcément dans mon ministère. Il y avait ceux qui voyaient des avancées visibles et qui voulaient encourager les autres, et c'était vraiment ça leur but, en leur disant « Mais tenez ferme, regardez, Dieu est à l'œuvre !» Je dois avouer que ça ne marche pas très bien avec moi. Savoir que Dieu était à l'œuvre ailleurs que là où moi je servais, ça avait plutôt l'effet contraire, de me renvoyer toutes mes insuffisances, tous les domaines où peut-être je manquais de zèle, de charisme. Et ce n'était pas tout à fait la manière qui marchait pour m'encourager. Alors, je pense qu'il y avait un problème d'identité chez moi. Gloire soit rendue à Dieu, je progresse, ou j'essaye en tout cas de progresser dans ce domaine. Mais en tout cas, la manière dont Dieu m'encourageait, c'était plutôt celle, ces petits moments où ces mêmes pasteurs parlaient de leur découragement, justement. Des moments où ils avaient eux-mêmes affaire à des questions, des montagnes qui ressemblaient à celles qui étaient dans mon ministère. Entendre que ces modèles étaient confrontés finalement aux mêmes situations de moi que moi m'aidait à voir que c'était à travers leur faiblesse que Dieu agissait. Plus de problèmes d'ego, plus de complexes d'infériorité. C'est quand je suis faible que je suis fort, nous dit la parole. Un encouragement puissant pour celui qui ne se sent pas à la hauteur, qui se sent épuisé d'avoir trop lutté. Alors j'aime la Bible parce qu'elle nous met en fait en équilibre ces deux modèles d'encouragement. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on a aussi chacun peut-être notre sensibilité propre, mais elle met en équilibre ces deux modèles d'encouragement. Il y a d'un côté toutes ces actions fortes où on voit que Dieu est à l'œuvre, qui marque une avancée fulgurante de l'Évangile. Et c'est un refrain qui revient d'ailleurs tout au long de notre série dans le livre des Actes. La parole progressait et le nombre des disciples augmentait de jour en jour. C'est une petite phrase qu'on retrouve tout au long du livre des Actes. Et ça, bien sûr, ça fait envie, ça nous dit « Mais oui, Dieu est à l'œuvre !» Mais, comme je vous l'ai dit, il y a aussi ce contraste. Ça ne se passe pas toujours comme ça et on ne le voit pas toujours aussi fortement. Mais à côté de ces percées spectaculaires de l'Évangile, si nous sommes attentifs, nous verrons aussi les doutes, les questionnements de ceux et de celles qui apparaissent peut-être un peu trop rapidement comme des héros de la foi. Et acte 18, là où nous en sommes dans notre série, en est un bon exemple. Nous continuons ce matin de parcourir le livre des Actes avec cette idée de préciser quelle est la mission de l'Église. Et ce matin, nous constatons que ce n'est pas parce que l'Église est en train justement d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée, apporter la parole dans le bassin méditerranéen pour l'équipe qui est avec Paul, que cela signifie forcément qu'il n'y a pas à faire face à son lot de découragement. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles dans le chapitre 18 du livre des Actes. Nous allons lire les versets 1 à 16 ce matin. Acte 18, versets 1 à 16, et la version que je vais lire sera donc projetée. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe.
il y fit connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il se logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il se consacra de tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus. C'était un non-juif qui adorait Dieu et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra t'attaquer ni te faire du mal. » Car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant un an et demi y enseigna la parole de Dieu. À l'époque, Gallion était gouverneur de la province d'Achaïe. Les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et l'amenèrent devant le tribunal. Là, ils l'accusèrent ainsi. Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul se préparait à répondre quand Gallion dit aux Juifs « Écoutez-moi, aux Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou quelque méfait punissable, j'examinerai votre plainte, comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms et sur votre loi particulière, cela vous regarde. Je ne veux pas en être juge. » Là-dessus, il les renvoya du tribunal. Alors la foule s'en prit à Sosthène, le chef de la synagogue, et le roua de coups devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Jusque-là, la lecture ce matin. N'aie pas peur, parle et ne te tais point. Un verset comme un mot d'ordre en ce printemps 2023 qui fait écho à beaucoup des choses que nous avons vues, que nous envisageons actuellement. On est dans une réflexion de voyage missionnaire à court terme. Et pour ceux qui sont donc partants pour ce voyage, je vous rappelle qu'on aura un petit temps d'information à la suite de ce culte. La semaine dernière, on a été enseigné dans ce que cela impliquait dans notre témoignage personnel, ma manière de progresser. On a aussi eu ces réflexions dans les groupes de maison à partir du passage précédent. N'aie pas peur, parle et ne te tais point. Un verset qui nous encourage dans la mission que Dieu nous a confiée, mais aussi un verset qui a des choses à nous dire face au découragement. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. On va le faire en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous rendre compte ce qui a amené Paul à vivre un certain nombre de découragements. Je ne sais pas si vous avez repéré, parce qu'ils n'apparaissent pas comme ça, dans le texte que nous avons lu ce matin. Ensuite, deuxième étape, voir comment Dieu a répondu à ces découragements. Ça va rejoindre ce qu'on a déjà entendu ce matin de manière discrète. Et enfin, appliquer ce que nous avons découvert quand nous sommes confrontés au découragement. Voilà le programme ce matin. Nous sommes donc dans le deuxième voyage missionnaire de Paul qu'il a amené d'Antioche, sa base d'envoi, jusqu'à Corinthe, et donc nous suivons ce voyage depuis le début du mois de mars. Et donc Paul arrive à Corinthe, qui est une ville assez importante, c'est la capitale de l'Achaïe, 700 000 habitants, une ville multiculturelle où se côtoient Romains, Grecs, gens d'Asie, Juifs, un carrefour commercial, mais aussi un haut lieu de l'adoration polythéiste, et notamment de la déesse de l'amour Aphrodite. Ce qui impliquait aussi une certaine décadence morale dans cette ville. Il y avait même une expression proverbiale, se corinthianiser, qui voulait dire en fait se livrer à la débauche, tout simplement. C'était une expression de l'époque. La ville était tellement associée à cette manière de faire. Mais curieusement, c'est dans ce contexte de misère humaine, si je peux l'exprimer ainsi, et non dans celui des philosophes d'Athènes, que nous avons vu en acte 17 dans les groupes de maison, que l'Évangile opérera une percée remarquable. Paul va décider de rester là une année et demie. Et c'est la première fois, en fait, depuis qu'il a entamé les voyages missionnaires, qu'il va rester ainsi longtemps. Peut-être qu'il a vu dans ces paroles de Jésus, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades, une parole particulièrement propice à ce qu'il a découvert à Corinthe. Mais revenons plutôt à notre réflexion sur l'encouragement et donc ce verset qui sert un peu de point de bascule de notre texte. N'aie pas peur, parle et ne te tais point. Pourquoi je dis que ce texte nous parle d'encouragement ? Bien parce que ce n'est pas le genre de parole qu'on prononce à quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est plein d'initiative et qui veut aller de l'avant. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et d'ailleurs, Paul fera lui-même état de ce découragement dans une lettre qu'il a adressée aux Thessaloniciens alors qu'il était à Corinthe. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés. Voilà les mots qu'il écrit au moment même là où il vit cette année et demie à Corinthe. En fait, si on considère la situation de Paul à son arrivée à Corinthe, il y a de bonnes raisons d'être découragé, même quand on s'appelle Paul. Paul a été à l'origine de plusieurs églises depuis le début de ce deuxième voyage missionnaire. Mais il n'a jamais réussi à rester plus que quelques semaines auprès des nouveaux convertis. À chaque fois, il a vécu l'angoisse de l'épreuve, pour reprendre les mots qu'il écrit aux Thessaloniciens. Il en a certes été délivré à chaque fois, mais quand il arrive à Corinthe, je pense qu'il vit probablement, vous savez, ce moment un peu de décompression. Oui, Dieu a fait de grandes choses, mais bon, quand on est passé par la prison, les jets de pierre, ça affecte notre psychologie, ça affecte notre corps, et c'est pas aussi évident que cela, même si on en a été délivré, de repartir au charbon. Et Paul est dans cet état d'esprit-là, du contre-coup à Corinthe. Et puis, il y a l'enjeu. Parmi ces nouveaux convertis, il y a beaucoup de païens, d'hommes et de femmes qui n'ont absolument pas grandi dans l'alliance du Dieu éternel, mais dans le paganisme. Et c'est pas la même chose d'enseigner en tant que disciple des juifs que des païens. Avec des païens, il faut tout reprendre à zéro. Il faut même déconstruire leur manière de voir le monde et la vie. Et ça se fait pas en quelques jours. Et Paul est inquiet. Inquiet de laisser ses croyants à chaque fois livrés à eux-mêmes après leur avoir annoncé l'évangile. Que vont-ils devenir ? Que va-t-il se passer ? Particulièrement frustrant. Et puis il y a eu juste avant Athènes, et cette confrontation avec les philosophes, au rang des philosophes, là il y avait de l'éloquence sur la table. Et Paul peut-être a vu ça comme un échec, de ne pas réussir à convaincre ces personnes qui étaient connues pour leur propre réflexion. Alors, quand Paul arrive à Corinthe, on imagine bien sa lassitude. Et d'ailleurs, il est seul. Ses équipiers ont été envoyés pour revisiter les églises par lesquelles ils sont passés, Thessalonique, Philippe. Il n'a plus d'argent, pour ça qu'il est accueilli par Priscille et Aquila, c'est qu'il se remet à travailler et à construire des tentes.
Et puis, la communauté juive de Corinthe, eh bien, elle est sur la même lignée que toutes les communautés juives qu'il a rencontrées jusque-là. Opposition, prêt à en découdre avec lui. La mission semble au point mort. Ce n'est donc pas le moment le plus stimulant de ce second voyage missionnaire pour Paul. On est loin des situations où Dieu va agir avec puissance, comme lorsqu'il a envoyé le tremblement de terre à Philippe pour qu'il puisse témoigner auprès du gardien de prison et qu'il se convertisse. L'action, là, semble plus discrète. Mais elle est pourtant bel et bien là, l'action de Dieu. Et ce même avant la vision du verset 9. Il y a, j'ai repéré à peu près, et il y en a peut-être d'autres, 5 encouragements de Dieu discrets dans ce passage. Et c'est ce que je vous propose maintenant de regarder. Le Dieu de l'encouragement. Premier encouragement, Dieu pourvoit aux besoins matériels. On l'a dit, Paul n'a plus d'argent, mais Dieu lui donne un travail. C'est Priscille et Aquilas, les agents de Dieu dans cette histoire. Ils ont le même métier que lui. Ils l'accueillent chez lui. Notons au passage la capacité d'adaptation de Paul. Hein. Oui, bien sûr, missionnaire. Mais quand la situation le demande, prêt à changer son activité, sans pour autant arrêter sa mission. Il continue pendant ce temps d'aller à la synagogue et d'annoncer aux Juifs que Christ est le Messie. Il différencie son appel missionnaire à annoncer l'Évangile de son activité. C'est une réflexion pour ceux qui sont à temps plein dans le ministère. Le temps plein n'est, à mon avis, jamais un appel. L'appel, c'est de quelle manière Dieu veut nous conduire à remplir la mission qu'il nous confie. Le temps plein, c'est la manière dont on va essayer de répondre aux besoins. Et oui, aujourd'hui, il y a besoin de temps plein pour répondre à des besoins d'église, des besoins de mission. Mais c'est une réponse aux besoins, non, et non pas un appel. Parenthèse refermée. Ce qui conduit au deuxième encouragement dans ce texte. Si Paul a probablement moins d'envergure dans son ministère, à cause du fait que, justement, il a dû reprendre son travail, il se lie d'amitié avec deux nouveaux collaborateurs, Priscille et Aquilas, qui s'avéreront d'une efficacité redoutable par la suite. Pour un visionnaire comme Paul, voir Dieu renforcer son équipe a été pour sûr source d'encouragement. Deuxième encouragement très discret de ce passage. L'équipe de Paul, alors qu'il est seul, se renforce de nouveaux collaborateurs. Troisième encouragement. Cette fois-ci, elle est liée à l'arrivée de Timothée et de Silas, qui rejoignent donc Paul à Corinthe. Revoir ses équipiers a pour sûr été source d'une grande joie. Mais pas que le fait de les revoir. Car Timothée revient avec de bonnes nouvelles de la foi de ceux pour qui Paul se fait du souci. En particulier, les Thessaloniciens, dont on a fait écho tout à l'heure. Écoutez la suite du passage que j'ai commencé à vous lire. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Paul le dit, on ne peut plus clairement. Voir que les Thessaloniciens tiennent ferme dans leur foi a été source d'un profond encouragement. Il a pu voir que c'est Dieu qui complétait lui-même la formation des nouveaux disciples. Quatrième encouragement est toujours lié à l'arrivée de Timothée et de Silas. Quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna à nouveau tout entier à la parole. Silas et Timothée ne sont pas arrivés les mains vides. Les Philippiens ont fait parvenir des dons, ce qui permet à Paul, et ça restait bel et bien hein, pour lui son fil conducteur, de se consacrer à nouveau tout entier à l'annonce de la parole, pour avoir justement plus d'envergure dans le ministère. On aime qu'on pense à nos besoins. Et ce geste matériel, concret, a été à nouveau là un moyen d'encourager Paul. Mais chez Paul, tout ne fonctionne pas comme chez un être humain normal. Parce que ce qui va l'encourager particulièrement, c'est non pas qu'ils ont envoyé des dons pour qu'ils puissent se consacrer à nouveau à l'Évangile, mais c'est ce que cela implique de leur compréhension de l'Évangile. Et ça, Paul l'écrit aussi dans l'Épître aux Philippiens. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, et donc il fait état de ce qui a suivi l'implantation de l'église de Philippe, lorsque j'ai quitté la Macédoine, donc l'église de Philippe, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Et ces mots-là, Paul ne les a pas écrits depuis Corinthe, comme un accusé de réception des dons qu'il a reçus. Il les écrit plus de 15 ans après, alors qu'il est en prison à Rome. Je trouve ça extraordinaire. Hein ? Quand il pense aux Philippiens, ce qui lui revient en tête, c'est pas le tremblement de terre qui lui a permis d'annoncer l'Évangile à un geôlier. Quand il pense aux Philippiens, ce qui encourage Paul profondément, c'est leur sollicitude à leur égard et ce qu'elle signifiait. Ils avaient pleinement compris que eux aussi jouaient un rôle comme partenaires de l'Évangile. Et ça, c'est le quatrième encouragement pour Paul, encore une fois, discret dans ce texte. Dieu suscite la sollicitude entre partenaires de l'Évangile, et c'est un encouragement pour Paul. Cinquième et dernier encouragement dans ce passage, la vision donc. Ne crains pas, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors vous allez me dire, pour le coup là c'est pas discret, une vision c'est pas tous les jours que ça arrive. Et heureusement oui, encore une fois, Dieu agit aussi de manière spectaculaire pour nous encourager. Cependant, la vision n'est pas suffisante. Et ce qui va encourager Paul, je pense, c'est aussi la manière dont Dieu a concrétisé cette vision. Et cette concrétisation, on l'a un peu plus loin, au verset 14, au moment où Paul, comme dans toutes les autres villes de Grèce, a été traîné devant les tribunaux. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » En gros, vos histoires de religion, ce n'est pas mes opinions. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, on pourrait se dire que dans un premier temps, ce n'est pas très encourageant, parce que la première chose qui va se passer tout de suite après, c'est que le chef de la synagogue, qu'on peut imaginer aussi s'être converti à l'Évangile, va être roué de coups et lynché, sans que Gallion s'en inquiète. Mais pourtant, cette petite phrase de Gallion, c'est elle qui marque le tournant véritable de ce que Paul va pouvoir faire, et certainement lui redonner encore plus de courage suite à la vision entendue. C'est le moment où, pour la première fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le début des voyages missionnaires, face à l'opposition, Paul n'est pas obligé de quitter la ville. À Philippe, hein, il avait été convoqué par les autorités pour lui dire « Bon, ok, on t'acquitte, mais maintenant tu déguerpis. » À Corinthe, il tombe sur un proconsul qui n'en a rien à faire. Et je trouve ça formidable, parce que vous vous rappelez le verset ? N'aie pas peur, parle et ne te tais point. Et Paul n'a pas été obligé de quoi faire, de parler. Au moment même où il allait ouvrir la bouche pour, comme d'habitude, se défendre, Dieu a précédé et a agi. C'est Gallion qui a parlé et qui a dit, « Moi, ce que vous faites, ça ne me regarde pas. Et donc je laisse continuer les choses comme elles sont. » Provoquant certes la colère des Juifs, mais permettant à Paul de s'enraciner à Corinthe et de rester là pendant un an et demi. Au moment même où Paul allait ouvrir la bouche, c'est comme si Dieu avait dit « pas la peine Paul, je gère, c'est moi qui conduis les choses. Je vais te donner moi-même les moyens de persévérer dans la mission que je t'ai confiée. »
à Corinthe.
Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce passage pour faire face à nos situations de découragement? Faire face au découragement. Bien, la première leçon, elle pourrait paraître banale, et pourtant, il me semble qu'il faut le prendre le temps d'insister, c'est que le découragement est normal. Même Paul est passé par le découragement. J'aurais envie de dire même Jésus dans le jardin de Gethsémani. Pourquoi je dis qu'il faut insister ? Parce que bien souvent, ce qui va nous faire persister dans notre découragement, c'est pas la raison première. C'est le fait de ne pas accepter qu'on puisse être découragé. Et tout ce que ça va déclencher chez nous, d'avoir honte de la raison de notre découragement, d'éprouver un sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur, comme celui que je vous décrivais tout à l'heure quand moi j'entendais des collègues pasteurs me dire « Nicolas, regarde !» Le découragement nous permet de découvrir que nous ne sommes pas aussi forts que nous en avions l'impression. Et c'est justement la manière dont nous allons réagir à cette découverte qui va conduire la suite des événements. Le découragement fait partie de notre condition humaine. Il nous rappelle que nous avons des limites émotionnelles, psychologiques. En fait, ne pas accepter ces limites d'une certaine manière, c'est nous inscrire dans la rébellion contre Dieu. Le seul qui n'a pas de limite, c'est Dieu. En n'acceptant pas nos limites, nous sommes en train de prolonger la faute originelle, vouloir être comme Dieu. La première leçon, c'est donc qu'il nous faut savoir passer par ces périodes de découragement. Accepter qu'elles sont là. Ah, elles ne sont pas agréables. Il y a tout un tas d'émotions comme la joie, l'enthousiasme, la motivation qui ont notre préférence. Mais elles font partie de ce que Dieu veut pour nous. Veut pour nous. Les émotions comme la tristesse, l'appréhension font partie de notre temps sur terre. Les refouler, c'est comme dire à Dieu « Je refuse de passer par la tristesse, par le découragement, car j'ai peur que tu ne saches pas me consoler. Je refuse de passer par là, car j'ai peur que tu ne saches pas m'accompagner dans ce moment. » C'est être incrédule, en fait, sur la capacité de rendre Dieu, que Dieu a de rendre toute chose parfaite. C'est probablement ainsi qu'il nous faut recevoir les fameuses paroles de Job. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Des paroles qui nous étonnent, qui nous choquent souvent. Pas rentrer dans le détail parce que le temps me manquerait, mais elles sont pas à voir ni comme du fatalisme, ni comme l'idée que Dieu nous voudrait du malheur. Non. Elles nous appellent à voir et à rester dans cette perspective qu'il nous faut apprendre à passer par ce que nous appelons malheur, pour avoir une idée plus complète de ce que ça veut dire que Dieu nous aime. Apprendre à passer par cette perspective, justement, de ces émotions difficiles à gérer, pour avoir une idée plus complète de ce que cela veut dire que Dieu nous aime. Première chose, donc, accepter le découragement. Il est normal. Deuxième chose que l'on voit dans ce texte, et peut-être qu'on a eu du mal à voir, et qui nous met déjà sur la piste de ce qui va être compliqué à voir, c'est justement apprendre à voir Dieu agir dans notre découragement. Parce que là, on est face à un obstacle de taille que l'on a déjà repéré dans le livre des Actes, c'est que Dieu n'agit pas comme on penserait qu'il devrait agir. Et forcément, ça va rendre difficile le fait de le voir à l'œuvre quand on est découragé. La question du découragement nous place émotionnellement devant ce décalage entre ce que Dieu fait et ce que nous pensons que Dieu devrait faire. Parce que, à la base, nous pensons que Dieu devrait nous empêcher de passer par le découragement. Donc là, on ne comprend pas déjà. Il y a un décalage. Et forcément, ça nous heurte ou ça nous confronte, j'ai envie de dire, à ce que Dieu fait et qui ne rentre pas dans nos cases. Alors forcément, quand je suis découragé, c'est là où je vais pouvoir me confronter à cette révélation du Dieu infini, du Dieu qui dépasse la manière dont moi je le limite. Le découragement fait partie du processus qui nous aide à mieux comprendre la toute-suffisance de Dieu. Dans notre passage, Dieu se plaît à encourager Paul par une multitude de gestes d'affection, de compassion, bien discrets, et qui passent par d'autres personnes autour de lui. Mais sans le découragement, comment je pourrais me saisir en fait que Dieu est à mes côtés, qu'il me relève et qu'il est pleinement suffisant? C'est par le découragement que je vais enfin pouvoir laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Mais pour cela, il faut sans doute ajouter deux conditions pour que ça marche. Ça marche, bien entendu, si je fais du royaume de Dieu ma priorité. C'est ce qui ressort pleinement des encouragements reçus par Paul tout au long de ce passage. C'est parce que le royaume de Dieu est sa priorité que les encouragements reçus des Thessaloniciens, des Philippiens, vont fonctionner. C'est parce que le royaume de Dieu est sa priorité que le fait que Gallion, même s'il provoque une persécution, a une parole qui va encourager Paul à rester à Corinthe. Et c'est sans doute comme cela qu'il nous faut comprendre ce verset où il nous est dit de parler et de ne pas nous taire. Non pas comme un verset qui nous encourage à parler à tort et à travers en toute occasion et en n'ayant pas peur de ce qui se passe en face, mais un verset qui justement s'inscrit dans la mission de Paul à Corinthe et qui lui dit « Persévère dans ton désir de me servir et de faire mon royaume ta priorité. » Ce n'est qu'en cherchant d'abord le royaume de Dieu que nous pourrons apprendre à voir Dieu nous encourager dans les situations où nous sommes découragés. Deuxième condition pour se laisser encourager dans ces situations où nous n'allons pas bien, c'est de choisir la reconnaissance. En fait, à travers chaque situation que je vous ai décrite tout à l'heure, il y a toujours « mais ». On peut toujours ajouter un « mais » à toutes ces situations. Oui, ok, il a fait ça, Dieu, mais il aurait pu faire ça. Il a permis que Paul reçoive des dons des Philippiens. Mais il aurait aussi pu permettre qu'il ne manque pas de ses dons dès le départ. Choisir la reconnaissance. Choisir de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et enlever le « mais ». Si je crois que Dieu agit pour mon bien, alors je pourrai voir sa bonté à l'œuvre, même dans les situations les plus obscures de ma vie. Dieu veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous émotionnellement. C'est plus particulièrement quand je me reconnais dans un état de faiblesse, découragé, que je suis prêt à laisser Dieu le faire. Les situations, les émotions négatives, comme le découragement, ces situations que nous n'aimons pas, nous aident en définitive à découvrir que Dieu est extraordinaire. Justement parce qu'il œuvre en permanence dans l'ordinaire de nos vies. Je prie.